car il voile la conscience. Et lorsque l'on dit qu'une femme s'est voilée, cela signifie qu'elle s'est couverte. Écoutez bien, rapporté par l'imam al-Bukhari. Voyez que du côté yani, de cet avis-là, qui est le fait que la femme doit couvrir son visage, il n'y a que des preuves rapportées par le Bukhari muslim, et des preuves avec des chaînes de transmission authentiques, rapportées par les plus grands exégètes, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Et j'en ai pas fini. Écoutez bien ce que dit ici l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il a rapporté dans son recueil de hadith authentique que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes immigrées. Car lorsqu'Allah a révélé et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, elles ont déchiré une partie de leur robe et se sont voilées avec. Dans une autre version, elle dit, elles ont pris le manteau et ont coupé leur manteau et ont coupé les rebords et se sont voilées avec. Ibn Hajar, écoutez bien, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, dit dans son ouvrage Al-Fath, l'explication de Sharh al-Bukhari, l'explication plutôt de Sahih al-Bukhari. Il dit quoi? L'ouverture, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? Sa parole disant, elles se sont voilées avec. Ici, Ibn Hajar, il dit dans l'explication de ce verset coranique, signifie qu'elles se sont couvertes le visage. C'est qui le dit? Ibn Hajar al-Asqalani. Signifie qu'elles se sont couvertes le visage. Et regardez, ayyuhal ikhwatul kiram, comment Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a compris et appliqué ces versets coraniques. Ici, elle dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Aïcha, alors que j'étais ainsi assise, je fus gagnée par le sommeil, dans un long hadith. Et m'endormie. Pendant ce temps, Safwan ibn al-Mu'attal, radiyallahu anhu, qui restait en retrait par rapport à l'armée. D'accord? Qui restait en retrait par rapport à l'armée. Elle s'est endormie, Aïcha radiyallahu anhu wa ardaha. Donc ici, il était resté en retrait. Donc Safwan ibn al-Mu'attal, par rapport à l'armée, s'était mis en route dans la dernière partie de la nuit. Il arriva près de l'endroit où je me trouvais au petit matin. Donc elle restait endormie. Il vit une forme humaine allongée et s'approcha. Donc Safwan s'est approché de Aïcha alors qu'elle était allongée. Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. La preuve qu'il faut remettre les hadiths dans leur contexte. Faut savoir ici, est-ce que le hadith concerne l'époque avant ou après la révélation du hijab. Qu'est-ce qu'elle dit? Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. Je fus réveillé au son de cette formule. Aïcha dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, « Je cachai alors immédiatement mon visage par le moyen de mon voile. » Rapporté par le Bukhari. En arabe, les termes arabes, elle dit فَخَمَّرْتُ وَجْهِ. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, فَخَمَّرْتُ وَجْهِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَهَا. Troisième point concernant le même verset coranique dans sourate An-Nur. Allah Azza wa Jalla dit quoi? وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah, il dit quoi? Et qu'elle ne frappe pas, dans le même verset coranique, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds afin qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Afin qu'on sache ce qu'elles cachent de quoi? De leur parure. Car à l'époque de l'Jahiliya, ils avaient l'habitude de frapper et de marcher yani, de façon très brusque. Car ils avaient des sortes de bracelets sur les chevilles et autres. Et ils frappaient pour attirer les gens avec le bruit. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Afin qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure pour attirer les gens. Ici, les savants parmi Charles Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit qu'Allah Azza wa Jalla interdit à la femme de marcher de façon brusque ici jusqu'à faire entendre le bruit des parures qui sont cachées, et ceci afin de ne pas attirer par le biais du son, simplement du son, l'homme. Ils disent alors que dire de la femme qui dévoile son visage? Qu'est-ce qui attire le plus? C'est le son ou c'est le fait de voir un beau visage? C'est clair? La réponse est claire. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, de plus, nous répondons aux savants qui ont dit que le fait de couvrir le visage et les mains, ce n'était pas obligatoire. Mais par contre, qui ont, ça c'est Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui dit, mais par contre, eux, ils disent que la femme doit couvrir obligatoirement les pieds, car les pieds c'est awra. Il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de couvrir les pieds, car c'est une awra, c'est une nudité, et ne va pas ordonner de couvrir le visage? Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, tout le monde sait que le visage attire plus que les pieds. Ça, c'est clair. Parmi les hadiths, des gens vont dire, bon, signons un peu de hadith maintenant, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Malik et d'autres, l'imam Malik dans le Muwatta et d'autres. Abdullah ibn Umar, selon Abdullah ibn Umar, le prophète alayhi salatu wa salam a dit quoi? Écoutez bien, لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. Hadith sahih. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit quoi dans Sahih al-Bukhari? Il dit que la femme en état de sacralisation, quand elle fait le hajj, elle n'a pas droit de porter le niqab et de porter des gants. C'est clair? Cheikh Uthaymin et les savants disent, ceci prouve que quand elle n'est pas en état de sacralisation, elle porte le niqab et elle porte des gants. Car le prophète alayhi salam dans Sahih al-Bukhari et dans l'imam Malik, ou plutôt dans le Muwatta rapporté par l'imam Malik, il dit quoi le prophète? La tantaqibu al-muhrima wa la talbas al-quffazayn. Qu'elle ne mette pas le niqab, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas son visage et qu'elle ne mette pas des gants. D'accord? Et ils disent dalla dhalik ala anna qabla an tuhrima kanat muntaqiba wa hadha wadih. Il dit, ça prouve qu'avant d'être en état de sacralisation, ici, elle couvrait son visage. Bien plus que cela. Rapporté par Al-Hakim, qu'il a jugé sahih, selon les Al-Sharti Sheikhan, selon les conditions de l'imam Al-Bukhari et Muslim, authentifié aussi par Ibn Khuzaima et d'autres. Asma bintu Abi Bakr, radiyallahu anha. Asma, la fille de Abu Bakr. Donc on parle de la même femme qui serait venu voir, je dis bien conditionnel, le prophète avec des habits serrés. Regardez Asma, qu'est-ce qu'elle dit, mais là c'est un hadith clair, authentifié ici même par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Même pas Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce qu'elle a dit Asma, la fille d'Abu Bakr, cette femme pieuse, fille de cet homme pieux Abu Bakr? Elle dit quoi? Nous cachions nos visages des hommes, c'est-à-dire autres que mari et proches parents, autres que les maharim. Elle dit clairement dans le hadith, nous cachions nos visages. Amma, quelqu'un va me dire maintenant, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a cité des hadiths dans son livre. Et ce n'est pas moi qui contredis notre grand savant muhaddith rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a Cheikh Al-Albani. Je rappelle les paroles des savants. Quelqu'un va nous dire, mais dans le livre de Cheikh Al-Albani, il y a des hadiths qui sont clairs. On va citer quelques hadiths. Rapportés par ici Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, selon Jabir ibn Abdillah, il rapporte ce hadith rapporté par Muslim. Cheikh Al-Albani, il a cité ce hadith là rapporté par l'imam Muslim, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu warda. Écoutez bien, il dit, ce hadith est cité dans le livre de Cheikh Al-Albani, j'ai assisté à la prière de l'Eid, suivez bien, j'ai assisté à la prière de l'Eid avec le messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Il fit la prière avant le prône, il fit la prière avant, c'est-à-dire le prêche, sans appel à la prière majeure adhan ni mineure iqama. Ensuite, Jabir dit, c'est Jabir, rapporté par Muslim. Ensuite, il, alayhi salatu wassalam, se leva, s'appuya sur Bilal et ordonna aux gens la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, il ordonnait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les exhorta à son obéissance. Les sermonna et leur fit le rappel. Il leur a fait le rappel, le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il se rendit auprès des femmes, les prona et leur fit le rappel. Il leur dit, faites l'aumône car la plupart d'entre vous sont en enfer. Une femme ici, aux joues foncées. Ah, une femme aux joues foncées. Donc, on a vu ses joues alors. Écoutez bien. Une femme aux joues foncées se leva dans l'assemblée, c'est-à-dire, elle avait la peau mate. Se leva et elle dit, pour quelle raison, messager d'Allah? Il dit, car vous vous plaignez beaucoup et méconnaissez les bienfaits que vous recevez. Il dit, elles se mirent alors à faire l'aumône de leurs bijoux et jetèrent leurs anneaux et leurs bagues dans le vêtement de Bilal. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va dire sur ce hadith-là? Écoutez bien. Première des choses, 5 compagnons. Les savants disent, 5 compagnons ont rapporté cette même histoire sans citer cette femme-là. 5 compagnons. Parmi ces compagnons, Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Ibn Mas'ud, et personne n'a cité cette femme-là. Première des choses. Deuxième des choses, les savants disent que si une femme porte le niqab, c'est-à-dire le niqab, ce type de hijab, car le niqab, c'est un type de hijab. Une femme qui porte le niqab, c'est-à-dire qui laisse apparaître ses yeux. Est-ce qu'on peut remarquer la couleur de sa peau ou pas? Bien sûr qu'on peut reconnaître la couleur de sa peau et voir si elle est bronzée, c'est-à-dire si elle est très mate. Surtout si une femme est très mate. Ici, simplement, ici, en voyant la couleur de sa peau à travers, ou plutôt qui apparaît quand, ici, elle montre ses yeux. Ils ont dit tout simplement, peut-être qu'il a remarqué que sa peau était foncée, simplement à travers le niqab. Deuxième des choses. Troisième des choses, et ça c'est la preuve la plus forte. Ils disent, de plus, c'était en l'an 2 de l'Hégire, et le verset sur le hijab est descendu en l'an 5 de l'Hégire. Voilà. Les savants, ils ont dit concernant ce hadith, après ici étude de ce hadith-là, les savants ici qui ont réfuté ce hadith ont dit que, ici ou plutôt cette théorie, ils ont dit que ce hadith-là concerne l'an, cette situation à l'an 2 de l'Hégire, et le hadith concernant le voile islamique est descendu à l'an 5 de l'Hégire. Un deuxième hadith que Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala a cité avec différentes versions et des versions rapportées par le Bukhari et le Muslim. Authentique, mashallah, on continue. Il dit quoi? Ibn Abbas rapporte, radiyallahu anhu, de Fadl Ibn Abbas. De Fadl Ibn Abbas. Une femme de Khath'am questionna le messager d'Allah alayhi salatu wasalam lors du pèlerinage d'adieu, le jour du sacrifice. Suivez bien. Lors du pèlerinage al-Hajj. Lors du pèlerinage d'adieu. Et Al-Fadl ibn Abbas était derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et Al-Fadl était un homme radieux. Le prophète s'arrêta pour répondre aux gens. Et selon une autre version, Al-Fadl ibn Abbas se tourna vers une femme. Et c'était une femme qu'il a trouvée très belle. Et il a trouvé cette femme très belle. Donc Fadl dit, j'ai trouvé cette femme-là très belle. Donc ça, Cheikh l'Albani s'appuie de ce hadith-là pour dire que Fadl a bien vu cette femme-là pour dire qu'elle était séduisante, elle était très belle. D'accord, il y a plusieurs versions que Cheikh l'Albani mentionne, rapportées par le Bukhari, Muslim et d'autres. Et Yanni, pour prouver que Fadl l'a vu. Ici, les savants ont réfuté tout simplement en disant quoi? Kanat muhrima. Qala alayhi salatu wasalam fil hadith al-sahih, la tantaqibu al-muhrima wa la talbas al-quffazayn. Il dit c'était dans le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, la femme n'a pas droit de couvrir son visage. Donc simplement ici, ils disent qu'il a vu son visage car elle n'a pas couvert son visage. Les savants, ayyuhal ikhwatul kiram, car le temps est terminé, ala kulli hal, les savants qui disent que c'est obligatoire. Maintenant on dit, ça c'est réfutation, ou plutôt c'est simplement pour répondre à ceux qui disent ça, il n'existe pas le niqab. Je rappelle les savants rapidement qui ont dit que le niqab était obligatoire, ou plutôt simplement le fait de couvrir le visage. Le fait de couvrir le visage était obligatoire. Al-Hafiz ibn Kathir, ce grand exégète, il a dit que le fait de couvrir le visage est obligatoire. Al-Imam al-Tabari, il a dit que le fait de couvrir son visage était obligatoire. Al-Hassan al-Basri, il a dit que le fait de couvrir son visage était obligatoire. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, il a dit que le fait de couvrir son visage était obligatoire. Al-Imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, il a dit que le fait que la femme couvre son visage était obligatoire. Ibn al-Jawzi, il a dit que la femme, c'était obligatoire pour elle de couvrir son visage. Cheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il a dit que le fait de couvrir son visage à la femme était obligatoire. Parmi les contemporains, Ibn Ubaz, il a dit que c'était obligatoire. Ibn Uthaymin, il a dit que c'était obligatoire, et j'en passe. Et j'en passe. Maintenant, quelqu'un va me dire, pour terminer ici, qu'est-ce qu'on dit les quatre grandes écoles? L'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abu Hanifa. Al-Hanabila est une des deux versions de l'imam Shafi'i, ou plutôt de l'école de Shafi'i. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le visage est awra. Ça, c'est pour Al-Hanabila. Ahmed ibn Hanbal, il dit que le visage de la femme est awra, elle doit couvrir. Et écoutez bien, une des deux versions de l'école de l'imam Shafi'i disent que la femme doit couvrir son visage. Mais concernant l'imam Malik, et une des deux versions de Shafi'i et Al-Hanafiya, ils ont dit que tout le corps de la femme est awra sauf le visage et les mains. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que certains disent que la majorité disent que la femme doit couvrir tout son corps sauf le visage et les mains. D'accord? Et on ne réfute pas ça du tout. Ici, l'imam Malik, ainsi qu'une des deux versions de Shafi'iyya, de l'école de l'imam Shafi'i, ainsi que Al-Hanafiyya, ils disent que toute la femme est awra sauf le visage et les mains. Donc elle doit couvrir tout son corps sauf le visage et les mains. Lakin bishart. Les quatre imams et retourner à tous les livres de jurisprudence en arabe, car ils ne sont pas en français, en arabe, concernant ce sujet-là, et regarder les paroles des quatre grands imams et quatre grandes écoles concernant ce sujet-là. Ils ont tous dit bishart. Ils ont dit bishart quoi? Bisharti amnil fitna. Ils ont dit à condition qu'on soit, yani, préservé de l'fitan, des troubles et des épreuves. À ce moment-là, la femme, ici, concernant ces trois écoles-là, ici, ils disent que la femme couvre tout son visage, sauf les mains et le visage. Mais en période de fitan, de trouble, en période d'épreuve, de trouble, de fitan, la femme et les quatre grandes écoles, et revenez à tous les livres de jurisprudence concernant les quatre grandes écoles, ils disent qu'en période de fitna, la femme doit obligatoirement couvrir son visage et ses mains. La femme doit obligatoirement couvrir son visage et ses mains. Et est-ce qu'à notre époque, on ne peut pas dire qu'on est en période de fitna, si à notre époque, on n'est pas dans une période de fitan? C'est à quelle époque qui est survenu le fitan, ayyuhal ikhwatul kiram? Ça, ayyuhal ahbab, c'était simplement pour rappeler ici aux gens, aux détracteurs, à ceux qui disent que ça n'existe pas, le fait de couvrir son visage, qu'il y a les preuves tirées du Coran et de la Sunna et qui sont claires. Et je rappelle que je ne suis pas là pour imposer. Et je ne suis pas là pour dénigrer ceux qui ont pris la vie, yani, que la femme doit couvrir son visage, son corps, sauf le visage et les mains. Ils ont leurs preuves, ils ont leur adilla. Et nous, on parle de eux avec le plus grand des respects, car ce sont des savants, et nous, on n'est rien par rapport à eux. Lakin, je n'ai fait que répéter les paroles des savants, ici, qui ont contredit certaines paroles d'autres grands savants. Et ceci avec la plus grande des politesses et le plus grand respect de nos grands savants. Celui qui a pris la fatwa ou l'avis juridique que la femme doit couvrir tout son corps, ici, sauf son visage et ses mains, c'est un avis qui est fondé sur des preuves. Lakin, moi, ici, j'ai rappelé les preuves, ici, sur lesquelles, moi, je penche. Car moi, d'après les preuves que j'ai établies ici, l'obligation de couvrir son visage est pour la femme. La femme doit obligatoirement couvrir son visage et ses mains. Lakin, celui qui a pris l'autre avis juridique, Inch'Allah ta'ala, personne n'a droit de le dénigrer, de le blâmer, ou bien ici de rentrer en tension ou en conflit. Abadan, abadan. Les compagnons, ici, ont divergé dans des avis juridiques. Les compagnons, hatta al-anbiya, même les prophètes, ayyuhal ikhwatul kiram, j'ai pas le temps d'exposer les preuves, ils ont divergé. Ça ne doit pas être une cause de dissension ou de tension ou de conflit, wal'iyadu billah. Et celui qui tombe dans cette erreur-là, il est tombé dans une mauvaise compréhension de la religion, wal'iyadu billah. Simplement, nous rappelons aussi à nos chères sœurs aussi, pour terminer, que les actes d'adoration sont basés sur la bonne intention. Et qu'une femme qui va doucement dans l'application religieuse, mais avec une bonne intention, une intention sincère, je le dis clairement, est meilleure qu'une femme qui couvre son visage et qui couvre son corps de la tête aux pieds, mais simplement en vue de satisfaire des sœurs, ou en vue de satisfaire des frères, ou en vue de gagner une chose mondaine de la vie d'ici-bas. La première sœur est meilleure que elle, même si elle ne couvre pas son visage, ayyuha al-ikhwatul kiram. Car les actes d'adoration sont basés sur l'intention sincère. Et je rappelle à nos sœurs aussi qu'il ne suffit pas de mettre ici le hijab al-shar'i, car il faut que le comportement suive aussi. Il faut que le comportement suive, car à partir du moment où la sœur elle met son hijab al-shar'i, elle devient un exemple. Elle devient un exemple pour les autres sœurs. Et elle montre et elle dégage l'islam. Et elle dégage la pudeur. Elle dégage le respect. Et elle montre qu'elle est fière de sa religion. Donc à elle de faire suivre cet acte d'adoration qui est un grand mérite. Qui est un grand mérite pour notre sœur. Faire suivre cet acte d'adoration par aussi le bon comportement. Car c'est ce qui est demandé à nos sœurs. Et avec le plus grand des regrets, comme vous le savez tous et toutes, au jour d'aujourd'hui, surtout en Europe, l'islam est devenu pour beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs plus une mode qu'une pratique religieuse. C'est pour ça que je rappelle, ce qui nous importe le plus, c'est le respect, l'amour entre nous, entre les croyants et les croyantes, ainsi que la sincérité ici dans tous nos actes d'adoration. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullah.